Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, aide à mourir plus belle, la fin de vie et Paris-Berlin, scène de la vie conjugale. Nos débatteurs ce dimanche, Corinne Lepage, bonjour.
Bonjour Hervé Gardette, bonjour.
Avocate, ancienne ministre de l'Environnement et eurodéputée. Nos batailles pour l'environnement, votre dernier ouvrage chez Actes Sud. Sylvie Kaufmann, bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste au Monde. Les aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie. C'est votre dernier ouvrage paru chez Stock. Jean-François Colosimo, bonjour.
Bonjour.
Directeur des éditions du Cerf, la crucifixion de l'Ukraine. C'est votre dernier ouvrage chez Albin Michel, mais il y en a un qui arrive très bientôt. On aura l'occasion d'en parler. Et puis Anne-Lorraine Bujon, bonjour.
Bonjour.
Directrice de la rédaction de la revue Esprit, le dernier numéro d'Esprit, Justice et Réparation.
Justice ou Réparation.
Ou Réparation. Alors dans la deuxième partie de l'émission, nous reviendrons sur la future loi consacrée à la fin de vie. Emmanuel Macron a présenté les grandes lignes il y a tout juste une semaine. Principale innovation, l'instauration d'une aide à mourir. Alors est-ce un progrès ou une régression ? Nous en débattrons, mais tout de suite, notre premier sujet.
La France, l'Allemagne et la Pologne. Le triangle de Weimar, au cœur de l'Europe, est un symbole fort de notre unité. Il est plus vrai que jamais. L'union fait la force. Ce sont notamment nos trois États, l'Allemagne, la Pologne et la France, qui ont une responsabilité particulière en l'occurrence.
Tout va pour le mieux entre la France et l'Allemagne. Et la Pologne. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre Paris et Berlin et Varsovie. C'est ce qu'Olaf Scholz et Emmanuel Macron ont tambouriné vendredi dans la capitale allemande, en compagnie donc du Premier ministre polonais. Sur l'Ukraine, nous sommes d'accord sur l'essentiel. Circuler, il n'y a rien à voir. Sauf qu'à peine installé dans l'avion du retour, le président français a réitéré ses propos sur l'hypothèse d'un envoi de troupes au sol en Ukraine, hypothèse qui avait fait bondir le chancelier allemand et qui ne va sans doute pas manquer d'écorner encore un peu plus le couple censé donner le tempo à l'Union européenne. Bref, entre la France et l'Allemagne, c'est un petit peu ichlibedisch, moi non plus. Et il faut dire que le couple n'est pas des mieux assortis. D'un côté, Emmanuel Macron, véritable zébulon, moulin à parole, jamais autant à l'aise que dans la lumière. De l'autre, Olaf Scholz, un taiseux, moins il en dit, mieux il se porte. La rigueur allemande dans toute son austérité. Alors évidemment, résumer les problèmes du couple à une opposition de style relève de la caricature. C'est sur le fond que les divergences prospèrent, sur l'Ukraine donc, mais pas seulement. Ainsi, en octobre 2022, le Conseil des ministres franco-allemands, vitrine de l'amitié entre les deux pays, avait été reporté pour mieux masquer les divergences sur les questions de défense déjà, mais aussi sur les politiques énergétiques, le choix français du nucléaire, ou économique, le plan de soutien allemand à son industrie. Alors, est-ce à dire que rien ne va plus dans le couple franco-allemand, abusivement présenté sans doute comme le moteur sans lequel l'Europe ne peut fonctionner ? Il y avait comme un air de thérapie de couple vendredi à Berlin pour la visite du Français chez son partenaire allemand, avec le Premier ministre polonais, Donald Tusk, en guise de médiateur. S'agit-il d'un léger mieux avant la prochaine crise ? Sylvie Kaufmann, je ne sais pas si vous avez un compte Facebook, mais sur Facebook, il y a un statut qu'on peut remplir, notamment sur sa situation amoureuse, et on peut notamment choisir « c'est compliqué ». Est-ce que vous diriez qu'entre l'Allemagne et la France aujourd'hui, pour leur situation amoureuse, c'est compliqué ?
Oui, bien sûr, c'est compliqué. Mais bon, c'est compliqué, et il y a des solutions aussi. Je pense que cette performance de vendredi, ce fameux triangle de Weimar, hein, qui est donc constitué par les trois pôles européens, la France, l'Allemagne et la Pologne. Donc cette manifestation d'unité, à mon avis, était indispensable. Elle est bienvenue. C'est bien qu'elle se soit produite. Je ne sais pas si elle est suffisante pour impressionner Vladimir Poutine, mais en tout cas, pour les Européens, je pense qu'il fallait absolument se réunir et donner cette image de d'harmonie, disons. Alors, là, et c'est très intéressant qu'on ait fait appel effectivement aux partenaires polonais. Et dans le contexte actuel, c'est important. Je pense que c'était vraiment une très très bonne chose que Donald Tusk soit là.
Il a joué le rôle de médiateur.
Non, je suis même pas sûre. Je pense que c'est simplement il fallait montrer que ces trois pôles de l'Europe étaient ensemble. est uni sur l'objectif que tout le monde partage en Europe, sauf peut-être Viktor Orban, mais bon, ça c'est encore une autre question, l'objectif de la guerre en Ukraine, qui est que la Russie échoue, empêcher la Russie de gagner et même d'une certaine manière organiser sa défaite. Donc la relation franco-allemande, elle est compliquée, bien sûr, mais elle est forte, y compris dans sa nécessité de surmonter les désaccords. Et là, je trouve que c'est très intéressant. Évidemment, il y a toujours eu des désaccords, bien sûr, mais cette relation, si vous comparez, par exemple, avec la relation franco-britannique, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se permet jamais de laisser complètement déraper la relation franco-allemande. Entre Britanniques et Français, il peut y avoir des désaccords qui durent longtemps. Ça a été le cas, par exemple, après le traité de Hawke, là, de défense avec l'Australie qui a échappé à la France. Ça a été un désaccord très profond qui a duré des mois, un froid qui a duré des mois avec des relations diplomatiques qui étaient pratiquement gelées, en tout cas à haut niveau. Entre Français et Allemands, on peut pas se permettre ça. On peut montrer les désaccords, mais il faut trouver aussi les moyens de les surmonter. Donc, et vous dites, cette relation est quelquefois abusivement présentée comme un moteur. Je ne crois pas que ça soit abusif, c'est-à-dire que les partenaires européens de la France et de l'Allemagne sont en général les premiers à dire, maintenant, quand il y a des désaccords trop évidents, trop poussés, à dire aux Français et aux Allemands, maintenant, arrêtez, mettez-vous d'accord, parce qu'on a besoin que vous soyez d'accord sur les objectifs principaux, sinon l'Europe, l'Union européenne ne peut pas avancer. Mais ce qui s'est passé là, c'est que ce désaccord, bon, comme vous l'avez dit, il peut porter sur des questions économiques, sur des questions énergétiques, sur des questions d'appareils de défense aussi, surtout industriels. Mais là, la guerre en Ukraine, là il s'agit d'une guerre. Et là, l'enjeu est beaucoup plus important, parce que la guerre, elle est aux portes de l'Europe, et donc il faut absolument que ces deux partenaires majeurs au sein de l'Union européenne puissent accorder leur violon. Et cette guerre en Ukraine a mis en évidence, évidemment, des choses qu'on connaît, des différences de culture stratégique, des différences de culture historique, évidemment, de la France et de l'Allemagne, mais qui n'était pas si importante au moment où la guerre n'était que de basse intensité depuis 2014 en Ukraine. Là, elle est de haute intensité. L'Europe est de plus en plus menacée. La Russie est de plus en plus agressive. Et donc, il faut cette fois-ci surmonter ces différends.
Bon, il y a en tout cas cet affichage de volonté de surmonter les différends, hein, même si, comme je le disais, Emmanuel Macron, dans l'avion du retour, a quand même redit qu'il y avait cette hypothèse d'envoyer des troupes au sol, qui avait quand même créé des tensions avec son partenaire allemand Olaf Scholz. Alors, on a l'impression, Jean-François Colosimo, que vu de France, l'Allemagne se fait un petit peu tirer les oreilles, c'est-à-dire être un peu plus active dans l'aide à l'Ukraine. Mais est-ce que ça n'est pas quand même faire un mauvais procès aux Allemands qui ont quand même réalisé une forme de révolution copernicienne après l'attaque de la Russie en Ukraine, en disant, ben voilà, on va livrer des armes lourdes, on va énormément subventionner notre armée pour qu'elle devienne peut-être même la première armée européenne. Est-ce qu'on n'est pas un peu injuste avec les Allemands aujourd'hui depuis la France ?
Ah, moi, je crois pas. Je crois que l'Allemagne n'est pas notre amie aujourd'hui du tout, qu'elle ne partage pas du tout notre vision de l'Europe et du monde. En tout cas, pour ce qui est du chancelier Scholz, c'est un peu plus compliqué parce que le personnel politique allemand est plus compliqué que la position de Scholz lui-même. Il y a par exemple un écologiste qui est une sorte de vice-chancelier, Habeck, qui lui a une culture anti-totalitaire, c'est un vert, et qui est beaucoup plus, je dirais, conscient de l'enjeu que représente Poutine pour l'avenir de l'Europe. Moi, dans cette affaire-là, je trouve que depuis le départ, en fait, cette histoire de couple franco-allemand, pour dire la vérité, j'y ai jamais trop cru. Parce qu'il faut regarder l'histoire, et l'histoire c'est que, vous voyez, les invariants, ces grandes invariants, je sais que ça va faire rire, mais bon, l'héritage de Charlemagne, c'est d'un côté un empire, de l'autre une nation, le Saint-Empire romain germanique et la nation française. Et je pense que depuis la construction européenne, on a bien fait, évidemment, de vider 14-18, 39-45, avec des Allemands qui, d'ailleurs, étaient très très propices, je dirais, à véritablement faire le compte de leur engagement nazi. et tout ça a été important, mais surtout le reste, enfin, d'année en année, sur, je dirais, la place de l'URSS, la réunification, sur les Yougoslavies, sur la Méditerranée surtout, sur l'intelligence économique, sur l'affaire de la Grèce, etc., 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 on a vu que les visions du monde étaient quand même pas du tout les mêmes, et je crois que ça éclate aujourd'hui, parce qu'on est dans une situation, Sylvie Kaufmann a raison de le dire, une situation d'urgence. D'urgence maximale pour savoir qui nous sommes.
Et en même temps, Jean-François Kohl, les images qu'on a à l'esprit, c'est De Gaulle et Adenauer, oui. C'est Helmut Kohl, oui. Et François Mitterrand. C'est-à-dire, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose de solide dans l'histoire récente.
L'appurement du passé, trois guerres, le nazisme, 14-18, Verdun, ce sont des images. Mais dans la réalité, je crois qu'il y a véritablement deux cultures qui sont... assez différentes. Et d'ailleurs, un des grands projets de l'Europe unie autour du couple franco-allemand, c'était une culture commune franco-allemande. Vous savez qu'elle est au plus bas. Les jeunes Français n'apprennent plus l'allemand. Ça a peut-être marché une époque. Le fameux baccalauréat franco-allemand, je crois qu'il y a trois lycées qui s'en occupent. Donc je pense qu'on a voulu vraiment surmonter une barrière culturelle qui existe, qu'il faudrait pas chercher à surmonter... je dirais par une espèce de conte de fées, cette idée de couple, vous voyez, un couple, c'est la communauté des biens, c'est l'harmonie des pensées, malgré tout, enfin en principe du moins, jusqu'à ce que ça aille mal, la preuve, je veux dire. Aujourd'hui, en fait, la vérité, c'est que l'Allemagne retombe sur son pacifisme, qu'elle a acquis depuis 1945, elle considère que les États-Unis sont responsables de sa sécurité ultime. Nous voyons bien que les États-Unis sont en plein décrochage. Quand l'Allemagne réarme, elle réarme d'une telle façon qu'elle nuit à l'idée de défense européenne et à la construction d'une défense européenne. C'est là où on...
C'est-à-dire en quoi ?
C'est que, manifestement, l'Allemagne réarmera plutôt américain que véritablement en favorisant une défense européenne. Alors évidemment, il y a une disproportion. Nous sommes une puissance nucléaire, elle ne l'est pas. Dernier point. Là où on est très gêné, c'est à cause du départ du Royaume-Uni. Parce qu'en fait, l'histoire de France, c'est assez simple. Hein. C'est une alliance continentale avec l'Allemagne contre l'Angleterre, une alliance atlantique avec l'Angleterre contre l'Allemagne, et puis quand ni l'un ni l'autre ne marchait, une alliance de revers avec la Russie, mais là, c'était toujours la catastrophe. Bon, donc, notre vision stratégique du monde, c'est ça, et encore une fois, j'y reviens, je veux dire, il y a eu un grand projet, l'Union pour la Méditerranée, nous avons un destin méditerranéen depuis toujours, c'est l'Allemagne qui a empêché cette vision, parce qu'elle veut rester continentale, voilà.
Alors, nous avons Sylvie Kaufmann qui nous dit oui, le couple franco-allemand existe et il fonctionne pas si.
Le couple.
Le moteur, mais ça, oui. Ça va même encore plus loin.
Oui, non, j'ai pas dit le moteur existe, j'ai dit le moteur doit se remettre en marche. Oui.
Mais c'est ce qui sous-entend qu'il existe.
Bon, alors,
je voulais créer une petite opposition entre vous et Jean-François Colosi, et peut-être demander à Noreen. Demander à Noreen Bujon d'arbitrer.
Assez naturellement, en fait, moi, je me retrouve dans certains éléments de ces deux positions. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une relation franco-allemande qui n'a jamais été simple. Je pense en effet qu'il y a des différences de culture politique, stratégique, économique, historique. Donc, il n'y a pas d'alignement a priori, mais il y a vraiment une faculté à surmonter ces différends et à se mettre d'accord dans des moments de crise ou dans des moments clés. Donc cette relation, elle est très importante. À vrai dire, aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, c'est que s'il y a des tensions entre la France et l'Allemagne, c'est bien sûr à cause de différences de style de leadership, on va dire, entre ces deux hommes. Mais je crois que c'est aussi vraiment un reflet du moment dans lequel on est, en fait, d'un état du monde qui change et qui change très vite et qui vient tester pour moi chacun des pays, la France et l'Allemagne, dans certaines de leurs positions réflexes, on va dire, et qui sont très irritantes pour leurs partenaires en Europe, pas juste le français ou l'allemand, mais au-delà. Donc, si vous voulez, il y a cette tendance de la France de voir l'Europe comme la France en grand, qui est insupportable. insupportable, évidemment. Et là, avec les rhodomontanes, etc., on est en plein là-dedans. De pas toujours prendre en compte les intérêts de nos partenaires, les intérêts et les points de vue de nos partenaires, mais aussi d'avoir le verbe haut et pas toujours les moyens de ses ambitions.
Ça, c'est dans la France dont vous parlez toujours, là.
Voilà, et je pense que tous ces travers français, si vous voulez, aujourd'hui, posent problème. Du côté allemand, on peut commencer, bien sûr, par cette espèce de tropisme américain, le fait de s'en remettre toujours d'abord aux États-Unis et d'être très lent aujourd'hui à comprendre que la culture stratégique, le positionnement stratégique américain a changé radicalement. Et que donc si les États-Unis, si l'Europe ne peut plus compter aujourd'hui sur les États-Unis, c'est pas juste Donald Trump, c'est un pivot stratégique des États-Unis depuis 2008 et l'Allemagne se comporte comme si ça n'était pas le cas ou comme si un président démocrate allait pouvoir réparer cet état de fait. Et puis, il y a la relation spéciale avec la Russie ou avec l'Est de l'Europe, et ce tropisme aussi de penser l'économie d'abord. Donc, dans les relations avec la Russie, dans les relations avec la Chine, vous avez parlé d'énergie, d'hydrocarbures, l'importance de l'exportation dans l'économie allemande, on sait que ça peut faire passer des considérations économiques d'abord. Et puis, il y a ce petit moment de pacifisme. Donc, je crois que le moment dans lequel on est vient chercher chacun des partenaires dans ses limites. Cela dit, moi, je suis très frappée aussi de ce que, en termes de politique intérieure, peut-être que les deux pays sont dans des positions qui se ressemblent bien davantage que ça n'a été le cas il y a 5, 10 ou 15 ans. Et ça, ça pourrait les amener à se rapprocher. Je pense, bien sûr, à la montée de l'extrême droite en Allemagne et en France, mais aussi à la présence d'une gauche anticapitaliste dont maintenant l'alignement avec la Russie pose également problème. Donc, il y aurait là, je crois, des raisons de travailler ensemble. Il y a une urgence à travailler ensemble. Et je terminerai pour dire, moi non plus, j'aime pas le terme de couple. Pour moi, il faut au moins élargir à la famille. Et je me demande...
Un trouble avec la Pologne, peut-être?
Alors, il y a ces triangles. Donc, je suis d'accord avec Jean-François Colosimo que le Brexit fait une vraie différence parce qu'on a perdu là un point d'équilibre avec un pays qui avait une politique de sécurité et de défense avec laquelle on pouvait beaucoup s'accorder. Et donc là, on a la Pologne qui vient permettre de reconstituer un autre triangle. Mais en fait, moi, je suis très frappée que l'Europe est peut-être en train de devenir multipolaire et que la France et l'Allemagne sont très importantes, mais que peut-être elles devraient en rabattre un peu. Donc, il y a les pays d'Europe centrale et orientale, il y a la nécessité de continuer à travailler avec le Royaume-Uni, bien sûr, et de repenser une alliance atlantique où, encore une fois, le partenaire américain n'est plus ce qu'il était.
En rabattre un peu, est-ce que c'est aussi l'avis de l'ancienne eurodéputée que vous êtes, Corinne Lepage?
Je me retrouve beaucoup dans ce qui vient d'être dit, en réalité. Même si je trouve aussi des éléments avec Madame Kaufmann et Monsieur Colosimo. Dans ce que j'ai vécu, mais ce que j'ai vécu à la fois 95-97 et 2009-2014, donc c'est deux moments un peu différents. Il est tout à fait clair qu'il fallait qu'on soit d'accord avec l'Allemagne. Il fallait se débrouiller. Du temps de Chirac, c'était indéniable. Il y avait les conseils des ministres très réguliers. Et le mot d'ordre, c'était vous faites comme vous voulez, mais vous trouvez un accord avec l'Allemagne. Il n'était pas question qu'on soit pas d'accord avec eux.
C'est-à-dire que même si on n'était pas d'accord, il fallait qu'on soit.
Il fallait qu'on trouve. Et il y avait la même consigne du côté de l'Allemagne. Moi, à l'époque, mon alter ego, c'était Angela Merkel, qui était ministre de l'Environnement à l'époque. Et on s'entendait franchement très bien. On trouvait des solutions. Lorsque j'ai été député européen, les choses étaient un peu différentes parce qu'on n'était plus 15, on était 28. C'est pas la même chose. Hein. En 95, on était 15. Donc évidemment, 2 sur 15, c'est beaucoup. Comme vous venez de le dire, 28, il y a différents pôles. Et c'est vrai que pendant très longtemps, l'Allemagne s'est un peu organisée avec l'Europe de l'Est. Je dirais pas contre nous, mais enfin un peu quand même. Bon. Là, ce qui me paraît clair, c'est que les cartes sont rebattues, non pas de notre volonté, mais de celle des autres. Autrement dit, et je m'en réfère à ma voisine, Madame Kaufmann, et à son livre, les relations entre l'Allemagne et la Russie, qui ont été si puissantes, elles sont complètement remises en cause. C'est tout à fait clair. Voilà, ça c'est un élément très puissant. Deuxièmement, l'OTAN... L'OTAN, déjà, est aujourd'hui un peu interpellé, si je puis dire, et surtout la perspective possible, j'espère pas probable, d'une élection de Trump nous oblige évidemment à nous préparer et à voir les choses de manière différente. Donc le parapluie américain, de toute façon, il est fortement interpellé. Donc la question...
Ça peut peut-être avoir vocation justement à rapprocher l'Allemagne et la France.
Exactement. Donc l'idée de la défense, de travailler vers une défense européenne, d'une capacité de nous organiser, m'apparaît quand même quelque chose d'extrêmement important. Et oui, quand vous disiez tout à l'heure que l'Allemagne a fait des efforts, c'est vrai qu'elle a fait un effort considérable en revoyant complètement sa position, qui était celle d'un pacifisme total, en investissant massivement dans l'armée, ce qui n'avait pas été fait depuis des années et des années, et en prenant donc une position qui n'est pas celle du président Macron, mais une autre. Et puis le dernier point qui m'interpelle, mais j'ouvre la question, je me pose la question de l'importance des considérations de politique intérieure dans l'expression des uns et des autres. Autrement dit, il y a les élections européennes qui arrivent. Vous l'avez rappelé il y a un instant, des positions quand même très pro-russes, à la fois de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Dans quelle mesure est-ce que cette situation n'influe pas sur les positions qui peuvent être prises par nos dirigeants respectifs dans une perspective de politique intérieure et non plus de politique extérieure? Je ne dis pas que c'est ce qui est fait. Je dis que c'est une question que personnellement je me pose.
Sachant que ces considérations de politique intérieure, elles interviennent aussi dans deux systèmes politiques qui sont quand même très différents, hein, Sylvie Kaufmann. C'est-à-dire, sur les questions, en tout cas, de défense en France, c'est le président qui décide. Bon, alors, il peut y avoir des débats, mais enfin, à la fin, c'est Emmanuel Macron qui a le dernier mot. En Allemagne, on est dans une coalition. Il faut réagir par consensus. Donc, forcément, les décisions sont beaucoup plus difficiles à prendre. Donc, c'est aussi peut-être une des explications des divergences qu'il peut y avoir parfois entre Paris et Berlin.
Oui, absolument. Et puis, en Allemagne, j'ajouterais ce que vous venez de dire, que c'est aussi le Bundestag qui décide sur les questions de défense.
Donc le Parlement.
Le Parlement. Et justement, à ce propos, jeudi, donc la veille de cette réunion du Triangle de Weimar à Berlin, il y a eu un débat assez extraordinaire au Bundestag où le chancelier Scholz a et rester sur sa position qui est de ne pas vouloir livrer ces fameux missiles à très longue portée, les missiles Taurus qui peuvent frapper à 500 km de distance et qui donc permettraient une sorte de saut stratégique pour l'Ukraine contre la Russie. Et donc Scholz ne veut pas, a répété qu'il ne voulait pas livrer ces missiles. Et il a eu cette phrase qui, à mon avis, est fondamentale. En tant que chancelier, j'ai la responsabilité d'empêcher que l'Allemagne participe à cette guerre. Donc, cette question du pacifisme allemand, oui, elle est toujours là. C'est-à-dire que oui, l'Allemagne a fait beaucoup depuis le 24 février, et en particulier depuis le 27 février 2022, et ce fameux discours du chancelier Scholz disant il y a un changement d'époque, et des moyens ont été déployés. Mais ce changement, il y a eu un changement d'époque, mais il n'y a peut-être pas encore eu le changement de mentalité vraiment en Allemagne, qui reste très, très imprégné de ce pacifisme hérité de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y a quand même des grosses évolutions. C'est que Jean-François Colosimo a cité le vice-chancelier Robert Habeck. Dans ce débat au Bundestag, ce qu'on a vu, c'est que l'ensemble de la classe politique était contre Scholz, y compris ses partenaires de coalition, les Verts et les Libéraux. Donc, il avait tout le monde, la CDU, donc conservatrice, les Verts, les Libéraux, qui lui disaient si, il faut livrer ces missiles Taurus. Et lui disait non, je ne veux pas que l'Allemagne participe à cette guerre et la livraison de ces missiles aboutirait à cette posture. Mais finalement, ce qui s'est passé à la fin, c'est que la discipline de vote a marché et donc les partenaires de coalition gouvernementale se sont rangés quand même derrière le chancelier malgré leurs divergences d'opinion. Pourquoi est-ce que le chancelier aussi reste sur ses positions? C'est que l'opinion publique est derrière lui. Les sondages montrent que les Allemands, à plus de 50%, près de 60%, reste opposé à cette livraison de missiles. Ils sont majoritairement pour l'envoi d'armes à l'Ukraine, donc pour le soutien à l'Ukraine contre la Russie, ce qui est déjà un gros progrès, je pense, pour les Allemands, mais ils ne veulent pas franchir ce pas des missiles taurus, qui, je pense, va peut-être être franchi d'une autre manière, et on le verra dans les réunions qu'il va y avoir des ministres de la Défense dans les jours à venir, qui pourraient être réglés par la Grande-Bretagne, c'est-à-dire que ces missiles seraient transférés à la Grande-Bretagne, et ça serait finalement la Grande-Bretagne qui les livrerait. Voilà, mais ça, c'est encore quelque chose à voir. Et l'autre chose, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit aussi Anne-Lorraine Bujon tout à l'heure, c'est qu'il y a la composante américaine qui est très importante. C'est vrai que Scholz en particulier, les Allemands en général, mais Scholz en particulier reste très très attaché à la relation transatlantique bien sûr, mais aussi au fait que la sécurité de l'Allemagne dépend des États-Unis, que les Français, eux, ont traditionnellement une position plus européenne, y compris au sein de l'OTAN, hein, ils veulent construire ce pilier européen au sein de l'OTAN, et que là se profile une menace qui est celle de la possible élection de Donald Trump, et que les Allemands, là, doivent être plus lucides, et en particulier le chancelier Scholz. Mais là, on n'en est pas encore tout à fait là.
Dans cette perspective, Jean-François Colosimo, ce sont les Allemands qui doivent faire leur petite révolution interne, davantage que les Français, qui sont habitués justement à cette idée d'une souveraineté.
Il n'y a pas photo, comme diraient les jeunes, n'est-ce pas ? Pour répondre quand même à Corinne Lepage, c'est évident que il y a l'échéance des élections européennes. C'est évident que lorsqu'on voit en plus l'attitude de LFI et du RN, on voit mal comment le président de la République, très engagé sur cette question, n'en profiterait pas. Enfin, c'est quand même pas pour ça qu'il a dit qu'on allait envoyer des troupes en Ukraine. C'est-à-dire, mais je dis ça pour les auditeurs. C'est-à-dire parce que certains pensent qu'effectivement, c'est un coup, n'est-ce pas? Ou que même d'ailleurs, ses premières déclarations ont été un coup pour attraper le salon de l'agriculture, ou je ne sais trop quoi. Enfin là, je crois que c'est le monde à l'envers et il faut arrêter avec de telles bêtises. Moi, ce que je vois, c'est quoi? C'est que, en fait, on l'a dit, cette émergence, oui, il y a une similarité avec une extrême droite et une extrême gauche, qui, au fond, d'ailleurs, les nôtres d'extrême droite et d'extrême gauche, qui clament sans arrêt des gestes de souveraineté, mais pour une fois qu'il y en a un, je vois d'ailleurs qu'ils adhèrent pas à ce geste de souveraineté et sont plutôt dans une perspective munichoise. Mais les sociétés se ressemblent de plus en plus. Mais la mias, quand même, et la situation de l'économie de l'Allemagne n'est pas si bonne. Pas comme elle a pu être par le passé. Or, nous, il y a une chose qui est intangible. C'est qu'on a une constitution qui fait du président de la République, élu au suffrage universel, le chef de l'État, le chef de la diplomatie, mais aussi le chef des armées, c'est-à-dire le président Macron dit chef de la défense. Non, c'est chef de guerre. C'est ça la vérité de la fonction. On a la force nucléaire, nous sommes présents sur toutes les mers, en raison des territoires ultramarins, et qui plus est, nous avons une armée qui a l'expérience du feu, elle l'a eu au Sahel, elle l'a eu dans d'autres circonstances, au Proche-Orient, et dans des missions, je dirais, internationales de préservation de la paix. Face à ça, je vois un Scholz terrorisé, un Scholz pétrifié, qui représente en fait, pour moi, quasiment un dinosaure. Et encore une fois, on l'a cité plusieurs fois, Habeck, qui vient du mouvement écologiste. Alors, tu vois, les écologistes, c'est quand même pas des va-t-en-guerre, théoriquement, n'est-ce pas ? Mais lui, il est très clair sur cette question. Il y a un moment où les entreprises totalitaires, si on les arrête pas, elles vous débordent. C'est aussi simple que ça, la question qui se pose aujourd'hui. Et on a une Allemagne pétrifiée par son passé, par son pacifisme, et pétrifiée aussi, il faut quand même le dire, par ses intérêts et sa vision économiste du monde.
Dernier petit point sur cette relation entre la France et l'Allemagne. Alors, c'est une hypothèse, mais on a l'impression quand même que pendant un temps, les rôles étaient assez bien répartis. C'est-à-dire qu'il y avait l'Allemagne qui était la puissance économique, et puis la France qui était la puissance stratégique, militaro-stratégique. Est-ce qu'aujourd'hui, les divergences, elles s'expliquent pas aussi parce que, finalement, cette répartition des rôles, elle est moins claire qu'auparavant. L'Allemagne qui se met à réarmer, et la France qui peut aussi contester certains choix économiques de l'Allemagne, Anne-Lorraine Bujon.
Oui, et je rajouterais qu'il faut regarder ce qui se passe au Danemark, aux Pays-Bas, en Pologne, en République tchèque. En fait, chacun de ces États membres de l'Union européenne est en train de bouger dans ses positions relatives. Mais pour revenir sur deux petites choses, cette idée que derrière les gouvernements et les chefs d'État, il y a des sociétés, et je crois que c'est très important, parce que sur le brouillage là entre politique intérieure et politique étrangère, à qui parle-t-on quand on parle comme ça, à qui parle Emmanuel Macron quand il parle de ne rien exclure, à qui parle Olaf Scholz quand il dit non, l'Allemagne n'entrera pas en guerre. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, ils font de la politique européenne et que dans une certaine mesure, je crois qu'il y a des opinions publiques en Europe, dans différents pays, qui se retrouvent davantage aujourd'hui dans les propos du président Macron, de même que vous allez avoir en Italie une partie de l'opinion publique également assez pacifiste qui va bien mieux se retrouver chez Olaf Scholz. Et donc je crois qu'on progresse vers ce qui ressemblerait à un espace public européen et moi je m'en réjouis.
Corinne Lepage ?
Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'il y a une évolution dans les états d'esprit des différents pays européens. Et plus ils sont proches de la Russie, je dois dire, et plus ils sont préoccupés. Il y a aussi des considérations géographiques. Quand vous êtes voisin immédiat ou quasi immédiat de la Russie, vous ne voyez pas la même chose que quand vous êtes au Portugal. C'est pas pareil. Donc, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Et dernier point, sur ce que disait Jean-François Colosimo, il y a quand même derrière un problème de moyens de notre armée. On a une excellente armée, ça c'est indéniable, mais on a un sacré problème de moyens, et tous nos généraux le disent de manière tout à fait claire. Donc il faut quand même aussi qu'on ait une politique ambitieuse, mais qui tient compte des moyens dont nous disposons.
Un dernier tout petit mot de Sylvie.
Juste une toute petite chose sur le brouillage des lignes. En effet, je voulais revenir sur cette question de les lignes à l'intérieur de l'Europe qui bougent, c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que l'Europe centrale et orientale et du Nord, qui était un peu l'arrière-cour de l'Allemagne, en ce moment, est plutôt en soutien d'Emmanuel Macron. Et l'initiative, les deux importantes initiatives en matière de défense sur l'Ukraine ces derniers temps, elles ont été prises par l'Estonie et par la République tchèque, ni par l'Allemagne ni par la France.
France Culture, l'esprit public. Hervé Gardette.
Pour moi, le premier sentiment, c'est une grande tristesse. La crainte qu'on a, nous, c'est que dans beaucoup d'endroits en France, il soit très rapidement plus facile d'avoir accès à une euthanasie ou un suicide assisté qu'à des soins palliatifs. Et ça nous paraît absolument anormal.
Emmanuel Macron n'assume pas les mots. Moi, je les assume parfaitement. Dans ce projet de loi, il y a très clairement un suicide assisté. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on pourrait s'orienter vers le modèle de l'Oregon, c'est-à-dire vous rentrez chez vous avec une prescription et puis vous le prenez tout seul, sans qu'il y ait de soignant à côté de vous. C'est pas du tout un modèle fraternel.
Alors regardez la mort en face plutôt que détourner le regard, c'est ce que propose le texte sur la fin de vie qui sera présenté en Conseil des ministres en avril avant un débat au Parlement au mois de mai. Regardez la mort en face sont en tout cas les mots utilisés par Emmanuel Macron pour résumer la philosophie de la future loi, à supposer bien sûr qu'elle soit adoptée. Alors telle qu'elle est pensée aujourd'hui, cette loi prévoit la possibilité pour les personnes majeures capables de discernement, atteinte de maladies incurables dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme et sujette à des souffrances qui ne peuvent pas être soulagées. Bref, la possibilité très encadrée pour ces personnes de bénéficier d'une aide à mourir, laquelle aide relèvera alors de la décision collégiale d'une équipe médicale. Or, si ni l'euthanasie ni le suicide assisté ne sont mentionnés, un pas est néanmoins franchi. Le dernier texte en vigueur, voté en 2016, la loi Claeys-Leonetti, avait instauré le recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès du patient, une forme de laisser mourir qui, avec le nouveau texte, se transforme donc en aide à mourir, ce qui relève d'une approche sensiblement différente. Une approche qui correspond aux attentes exprimées par une majorité de Français dans de nombreux sondages, et que la Convention citoyenne sur la fin de vie avait recommandé l'an dernier. Sur les 184 membres de cette convention, les trois quarts s'étaient prononcés en faveur d'une aide active à mourir. Pour autant, le projet est loin de faire consensus. Parmi les opposants à l'aide à mourir, des soignants qui refusent d'endosser la responsabilité de donner la mort, des religieux qui y voient une atteinte à ce qu'il y a de plus sacré, à savoir la vie, ou encore des intellectuels qui alertent sur les risques de dérive d'une société encourageant l'élimination des plus faibles. Le chef de l'État, lui, y voit au contraire une loi de fraternité, une loi qui concilie l'autonomie de l'individu et la solidarité de la nation. Bref, le débat est ouvert. Anne-Lorraine Bujon, est-ce que vous y voyez-vous une loi de fraternité que l'instauration d'une aide à mourir dans la loi ou au contraire une forme de régression ?
ni l'un ni l'autre. Ce qui me frappe en réalité, c'est que le projet de loi, pour ce qu'on voit à ce stade, cherche une voie d'équilibre. Il cherche une forme dans même temps. Il est en fait assez conforme à l'avis qui avait été rendu par le CCNE, le Comité Consultatif National d'Éthique, il y a maintenant un mois et demi, dans le sens où il prend en considération effectivement une demande, une attente d'aller plus loin dans l'aide à mourir ou l'aide active à mourir, on dit parfois, mais sans transformer radicalement, je crois, ce qui était déjà permis par les deux lois, donc la loi Leonetti puis la loi Claeys-Leonetti qui date de 2016. Donc j'ai le sentiment que c'est plus un changement incrémental. Il a une valeur symbolique. Les mots qu'on utilise sont très importants. Et moi, le président Macron a été critiqué pour l'usage du mot solidarité, fraternité. Et puis on a dit l'aide à mourir, c'est un euphémisme. Ce serait mieux de dire euthanasie ou suicide assisté. Moi, je n'aime ni les termes de suicide assisté ni les termes d'euthanasie. Ils me posent problème l'un et l'autre. Et je trouve que l'aide à mourir, c'est une formule un peu ambiguë, mais qui exprime bien ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire de prendre en compte ses attentes, tout en étant extrêmement prudent avec le maintien de ces conditions très strictes dans lesquelles ce serait autorisé.
Mais cette ambiguïté, elle vous paraît nécessaire ou est-ce qu'elle pose pas aussi problème? C'est-à-dire quand un texte n'est pas clair, son application est forcément compliquée, non?
Voilà, moi ce dont je me méfie dans le cadre actuel, c'est l'écart entre le ciel des idées et les moyens concrets de la mise en œuvre. C'est-à-dire que l'avis, le fameux avis du CCNE, il disait oui, il existe une voie éthique pour une application éthique de l'aide à mourir, mais il ne serait pas éthique de faire évoluer le cadre législatif si les mesures de santé publique recommandées dans le domaine des soins palliatifs ne sont pas prises en compte. Donc en fait, le fait que les soins palliatifs soient complètement sous-développés en France, et c'est pas juste une question de moyens matériels, c'est aussi une question de culture des soins palliatifs qui est forcément longue à s'installer. Le CCNE parle des efforts qu'il faut faire en matière de formation de tous les personnels médicaux et de tous les personnels qui aident à l'hôpital. Et donc, en réalité, si on ne commence pas par là, dans le cadre actuel, en effet, il y aurait un risque de raccourci et que les personnes ne soient pas réellement en mesure de choisir. Parce que, en fait, l'aide à mourir, c'est une solution de dernier recours. C'est quelque chose qu'on ne peut tenter que quand tout le reste a été proposé pour soulager les douleurs physiques et morales. Et aujourd'hui, dans notre système de soins, on est très très loin de pouvoir proposer à tout le monde ces autres solutions avant celle-ci qui doit rester une solution de dernier recours.
Même si la question des soins palliatifs, enfin, et l'offre de soins palliatifs, elle existe aujourd'hui en France, alors sans doute de manière insuffisante et pas dans tous les départements, mais c'est une loi qui les organise, qui date de 1999. Est-ce que vous considérez, Corinne Lepage, qu'il aurait fallu peut-être commencer par là, c'est-à-dire refaire une loi sur les soins palliatifs, en tout cas un effort budgétaire beaucoup plus important, avant de passer à une loi sur l'aide à mourir, ou bien est-ce qu'on peut quand même concilier les deux, puisque dans ce qu'annonce Emmanuel Macron, il y aura aussi un effort budgétaire supplémentaire pour ces soins palliatifs.
Il est évident qu'il y a quelque chose d'assez insupportable dans l'idée qu'il y a plus d'une vingtaine de départements en France dans lesquels il n'y a rien. Donc les gens n'ont pas cette possibilité. Ceci dit, je suis un peu gênée pour vous répondre, parce que moi je suis une militante de Mourir dans la dignité depuis 1990, donc c'est très vieux, et c'est ma grand-mère qui m'en avait parlé. C'est elle qui m'a expliqué ce que c'était que d'être une personne très âgée, dans une situation qui était pénible. Et elle militait, elle devait avoir déjà 89 ou 90 ans à l'époque. Hein. C'est elle qui m'en a parlé. Donc je suis très impressionnée, à titre personnel, par cette particularité de ma vie, si je puis dire. Et tout en étant, donc je suis pour le suicide assisté, mais je suis également très attentive à ce que ça ne se transforme pas en politique du cocotier. Je veux dire par là, on met les vieux ou les personnes fragiles en haut du cocotier et on secoue pour s'en débarrasser. Ça, c'est absolument insupportable et c'est pas éthique. Alors, il y a quelque chose dont je suis étonnée qu'on parle pas du tout. Il y a un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme sur ce sujet. Oui, c'est un arrêt de 2022, 4 octobre 2022, qui s'appelle Mortier contre Belgique. qui exige trois conditions pour que la fin de vie, enfin, appelez-la comme vous voudrez, soit compatible avec le droit à la vie, donc qui répond à cette question fondamentale que nous nous posons. Ces trois conditions, c'est la demande du malade, libre et en connaissance de cause. Donc là, on retrouve un peu le modèle français, et ça pose la question des gens qui sont en fin d'Alzheimer, par exemple, qui sont plus en capacité de demander quoi que ce soit. Les souffrances insupportables et une situation médicale irrémédiable. Ça, c'est la position de la Cour européenne des droits de l'homme. Moi, elle me semble...
Qui semble assez proche de ce que propose le
chef
de l'État.
Elle me semble assez cohérente, très franchement. L'euthanasie me pose un problème, là, très franchement, parce que on ne sait jamais comment ça peut être utilisé. Mais d'un autre côté, je trouve très irritant qu'un certain nombre de gens, parce qu'ils savent ou parce qu'ils ont les moyens, vont en Suisse ou en Belgique pour disparaître et que les autres n'en ont pas les moyens ou la possibilité. Et donc, voilà, moi, tout ce qui... Ça me rappelle ma jeunesse quand on ne pouvait pas avorter en France et qu'on se cotisait régulièrement pour permettre à nos copines d'aller aux Pays-Bas ou en Grande-Bretagne. C'est très injuste. Et donc, les situations d'injustice, pour moi, c'est quelque chose de difficilement tolérable.
Juste un petit point de définition, puisque vous avez évoqué le suicide assisté, l'euthanasie. Le suicide assisté, c'est l'acte consistant à fournir à une personne le produit nécessaire pour qu'elle se suicide. L'euthanasie, c'est le fait d'administrer à une personne en fin de vie un produit létal afin de précipiter son décès.
Quel est votre... Avec ou sans son consentement.
L'euthanasie ?
Oui.
Jean-François Colésimo.
Écoutez, cette question provoque en moi un grand ennui, parce qu'il y a des gens qui ont des expériences, des opinions, des convictions, et c'est très bien comme ça. Cette loi, elle serait passée, de toute façon, elle serait passée un jour sous ce mandat, sous un autre, parce qu'on est dans une société où, en fait, le droit n'a plus d'autre référent que la capacité d'avoir des droits. C'est ça le véritable problème. Donc, à partir de là, dans cette forme de contractualisme, la vérité, c'est que il y a trois facteurs aussi qui sont objectifs. C'est bon, l'effacement des fondements du droit, le vieillissement de la population, le progrès de la médecine, l'inflation des revendications individualistes, et, qui plus est, le déficit de la politique de santé. Alors, quand on met tout ça ensemble, on va dire, c'est la solution. Mais en fait, il faut bien admettre qu'il y a tous ces problèmes pour pouvoir concevoir que, en fait, l'expérience empirique, elle montre partout où des lois similaires ont été mises dans d'autres pays, que, en fait, on atteint très vite un point de non-retour, c'est-à-dire que toutes les limitations et toutes les préventions qui ont été mises sautent les unes après les autres. Pourquoi ? C'est ce que montre le cas de la Suisse, n'est-ce pas ? La loi existe de manière assez restrictive. Le taux de suicide accompagné a explosé, 475% d'augmentation en 13 ans, 3 suicides assistés par jour pour une population qui fait celle du Grand Paris, 8 millions d'habitants. Au départ, il y avait des critères médicaux. Aujourd'hui, évidemment, il faut dire que votre existence vous est devenue intolérable. Et il arrive que les existences deviennent intolérables. Mais moi, j'ai appris petit à l'école que quand quelqu'un allait mal dans la classe, c'était le souci de tout le monde, et on ne disait pas « va-t'en, disparaît ».
Ça veut dire que pour vous, l'encadrement qui est proposé là aujourd'hui par Emmanuel Macron, c'est quelque chose qui ne tiendra qu'un temps, mais qui aura vocation
à... Non, je crois que la volonté, comme dans notre pays, est sincère d'encadrement, mais elle ne tient pas, parce que dès lors que, en fait, la référence est faite au sujet, n'est-ce pas, dans un monde où en plus la mort a largement disparu, plus personne ne voit de mort, on meurt à l'hôpital, enfin, etc. Donc si on retient que l'intention subjective, la subjectivité, c'est la subjectivité, puisqu'il n'y a plus d'objectivité.
Mais la référence, elle n'est pas qu'au sujet, Jean-François Colosimo. Je reprends les termes, en tout cas, d'Emmanuel Macron. Il parle de loi de fraternité qui engage la solidarité de la nation. Vous n'y voyez que la réponse à des revendications individuelles.
Moi, je ne vois pas ce qu'il y a de fraternel, pour dire la vérité, là-dedans, véritablement. La différence, quand même, avec la sédation, la différence avec les soins palliatifs, c'est que dans un cas, il y a un malade qui meurt, dans l'autre, il y a quelqu'un qui s'administre la mort, ou on administre la mort à cette personne. Ce sont des actes qui n'ont a rien à voir d'un point de vue existentiel, ontologique, éthique. Ce sont deux actes qui n'ont rien à voir. Je finis juste et après je vous laisse. Il est évident aussi qu'il y a un utilitarisme derrière tout ça qui est quelque chose d'effrayant, n'est-ce pas ? Alors évidemment, un modèle de rentabilité quand même, un problème sur le traitement de la vieillesse, le scandale a éclaté avec les EHPAD, n'est-ce pas ? Une société qui se moque de ses anciens, une société qui se moque de ses anciens, à travers ça, je vois mal comment elle va réparer son déficit de fraternité en distribuant des capsules létales. Bon, je vois mal, là je vois mal. Et enfin, le problème des soignants. Ils sont hostiles, il faut le dire, parce que c'est pas leur mission. Et pour finir, en fait, les problèmes qu'on peut attendre, la division des familles, les accusations de manipulation, n'est-ce pas ? Une telle loi ne va pas cesser de fragmenter, en fait, la solidarité. Et on le sait, derrière tout ça, il y a une politique, ou plutôt une non-politique de soins palliatifs qui est très ancienne, qui remonte à 20-30 ans. Cette absence, ce creux, je veux dire qu'il nous met à la remorque des pays avancés. C'est ça la vérité. Et je conclue là-dessus parce que l'expérience des soignants, elle est claire. Parlons même pas des religieux, ne mettons pas la transcendance là-dedans. L'expérience des soignants, c'est que quelqu'un qui est dans des souffrances intolérables parce que cette personne est dans une situation terminale, lorsqu'elle arrive à l'hôpital, elle dit « Je n'en peux plus, libérez-moi, faites-moi mourir ». Mais la vérité, c'est que s'il y a des soins palliatifs, cette personne va apprécier les jours de plus, puisqu'il y a de l'inéluctable. N'est-ce pas ? Dans la mort, cette personne va apprécier les jours de plus simplement pour revoir sa vie, voir les siens, etc. Si on veut mourir dans la dignité, je pense qu'il y a ça aussi, c'est qu'on disparaît soi, mais les autres restent. Est-ce qu'ils vont rester sur un acte létal ou est-ce qu'ils vont rester sur une véritable fraternité élargie qui s'élargit d'ailleurs aux soignants ?
Sylvie Kaufmann.
Voilà.
C'est très difficile tout ça et c'est très difficile aussi de généraliser parce que chaque cas évidemment est particulier. Juste une chose sur les chiffres, Jean-François Colosimo, vous avez cité les chiffres en Suisse. Moi, j'ai vu des chiffres sur l'Espagne qui a légalisé, qui a pris toutes ces mesures en 2021. Et depuis 2021, il y a eu un peu moins de 400 cas d'aide, soit d'euthanasie, soit de suicide assisté. Donc, on est à peu près une centaine par an pour une population de 38 millions. Où c'est quand même pas une vague. Il n'y a pas eu une précipitation vers ces mesures-là. Moi, je pense qu'il y a eu... Bon, d'abord, il y a une maturation de ce débat depuis la loi, depuis plusieurs années, bien entendu, mais aussi depuis la loi Claeys-Leonetti. Et bon, on voit bien le rôle qu'a joué la Convention citoyenne. Je pense que c'était un rôle très important. Il y a eu des consultations. Le comité, en effet, consultatif d'éthique qui a donné son avis. Le président de la République a consulté les représentants des cultes. Donc, on voit qu'il y a quand même une demande, un souhait, y compris dans l'opinion publique, y compris au sein de la communauté catholique, d'après ce que j'ai vu dans les sondages, même s'il y a la hiérarchie catholique est contre, mais au sein des croyants, visiblement, il y a un souhait d'une évolution de cette législation vers plus de choix. Alors, ce qu'on voit ressortir aussi de ce débat, c'est que il y a un attachement aux soins palliatifs, donc ça vous l'avez tout à fait souligné les uns les autres et le regret que ces soins palliatifs se développent de manière insuffisante. Donc là, je pense que quand le projet de loi sera discuté au Parlement, ça sera certainement une grande partie de du débat. Et il ne faut pas oublier que ce projet de loi est appelé à évoluer puisqu'il sera discuté au Parlement. Ensuite, il y a le problème du flou. Et notamment de cette question dans les conditions qui sont exposées dans le projet de loi, le pronostic vital soit engagé à court ou à moyen terme.
Oui,
c'est ça.
Oui, voilà. Moyen terme, on ne sait pas forcément
durée. Si court terme, on comprend à peu près. Moyen terme, c'est ouvert à toutes les interprétations. Je pense que là, il faudra faire évoluer le texte, mais on ne pourra jamais, ça n'est pas comme l'avortement où on peut dire un certain nombre de semaines, etc. Là, on ne pourra jamais donner donner une définition précise de ce que sont, à nouveau, chaque cas est différent. Moi, je veux bien la fraternité. Monseigneur Moulin-Beaufort dit que c'est beaucoup mieux d'accompagner le mort dans la, avec de la considération, enfin le mourant, pardon, la personne qui se trouve dans cette situation, le patient, dans la considération, l'attention, l'affection. Mais tout le monde n'a pas cette considération, cette attention, cette affection, y compris de la part des prêtres d'ailleurs. Il y a beaucoup moins de prêtres qu'avant et l'Église n'est souvent pas en mesure d'apporter cette attention et cette considération à ces fidèles qui sont en train de mourir. Donc,
mais ça, c'est pas là une loi qui peut y changer quoi que ce soit.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, on n'est pas dans. Je crois que c'est Alain Claisse qui dit on n'est pas dans l'opposition. C'est la vie ou c'est la mort. Non, il ne s'agit pas de tuer les gens. Il s'agit de faire en sorte que la fin de vie soit la moins pire possible. Voilà, donc je trouve que quelquefois, le débat est un petit peu vraiment est trop détourné. Sur l'histoire... Alors, il y aura un autre sujet, à mon avis, qui va émerger, qui émerge déjà dans ce débat. C'est celui du rôle des soignants, bien entendu, et du personnel médical. Et alors, je suis, par curiosité, je suis allée regarder le serment d'Hippocrate. Et le serment d'Hippocrate dit « Je ferai tout pour soulager les souffrances, je ne prolongerai pas abusivement les agonies, je ne provoquerai jamais délibérément la mort. » Donc, on trouve un peu tout dans ce serment, mais il est probable qu'il faudra le modifier. Voilà, et donc ça va poser la question de l'attitude du personnel médical et des médecins qui doivent... Parce que le rôle des médecins dans ce projet de loi, c'est finalement de donner le feu vert à cette mesure, à un suicide assisté par exemple. Ils auront le droit de dire non, moi je ne veux pas être sollicité dans cette procédure. Donc ça sera... il faudra trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Voilà, donc je pense que là on ouvre aussi une autre question.
Anne-Laurent Bujon.
Tout ça me fait penser qu'un des écueils, je crois, dans l'état du débat actuel, c'est que on a tendance à voir que la pointe avancée du sujet, en fait, et à isoler un peu les cas limites ou les cas extrêmes par rapport à le sujet, par rapport au sujet dans son ensemble. Donc, d'abord, mourir dignement. Dans un système de santé qui, pour l'instant, très souvent, est incapable de soigner dignement, par manque de moyens. C'est une jolie idée, mais elle ne sera pas pratiquement réalisable. Mais je pense que les questions que la fin de vie pose à notre système de santé publique, en fait, on peut les élargir. C'est-à-dire que la question, par exemple, de solutions de mi-chemin entre un environnement très médicalisé et le domicile. Donc là, on dit quand même, ça pourrait se passer à l'hôpital, dans des maisons médicales ou à domicile. Et ça, je pense que c'est très important. C'est important aussi pour les naissances et les maternités. Donc, le mourant n'est pas toujours un patient. Enfin, c'est-à-dire de sortir d'une approche totalement médicale, en fait, il n'y a pas plus naturel que le fait de mourir. Donc ça, c'est une question qu'il faut voir au-delà de la fin de vie. Il y a aussi la question des décisions collégiales, du pouvoir médical. Donc là, les soignants résistent beaucoup à l'idée que ce serait à eux de décider et on le comprend. Mais l'idée qu'il faut savoir impliquer les proches, l'idée qu'il faut savoir impliquer tous les membres d'une équipe soignante, c'est très important. Et l'idée qu'il faut pouvoir soigner les soignants. Et je vois pour la société, si vous voulez, quelque chose d'un peu similaire, c'est-à-dire qu'on a tendance à isoler le moment de la mort de tout ce qui précède. Mais en fait, notre problème majeur aujourd'hui, c'est le problème du grand âge, le tsunami du grand âge, comme dit un auteur chez nous. Et donc les 5, 10, 15 ans qui vont précéder cet instant fatidique. Et c'est là que ça se décide. Est-ce que les gens sont isolés? Est-ce que les gens sont accompagnés? Voilà, un autre mot qui est utilisé tout le temps dans le débat, là, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, c'est une très jolie idée, mais donc ça pose la question de ce qu'on veut faire pour la dépendance, le grand âge, toutes ces questions d'avant ces derniers instants critiques.
Par rapport à la résistance d'une partie du corps médical que vous avez évoqué, Anne-Lorraine Bujon, et aussi une partie des religieux, il y a eu une tribune dans Le Monde il y a quelques jours, signée notamment par André Comte-Sponville, François de Closet et Henri Pénard-Ruiz, qui faisait un parallèle entre cette résistance aujourd'hui par rapport à l'aide à mourir et la résistance qu'il y avait eu de la part de certains médecins et de certains religieux par rapport à l'interruption volontaire de grossesse dans les années 70. Vous évoquiez tout à l'heure Corinne Lepage l'IVG pour dire, voilà, oui. Moi j'ai connu en tout cas voilà le fait de revendiquer un droit et de ne pas pouvoir l'avoir, mais qu'est-ce que vous pensez de ce parallèle? Est-ce qu'il vous choque ou est-ce qu'il vous semble le pertinent? Ouais. C'est-à-dire, est-ce que ceux qui s'opposent aujourd'hui à l'aide à mourir sont dans le même état d'esprit que ceux qui s'opposaient à l'IVG?
Je ne sais pas répondre à cette question, mais je pense qu'il y a des questions éthiques qui sont un peu proches, qui touchent en fait à ce qu'on appelle le droit à la vie. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des oppositions à l'IVG? Parce que certains ont considéré que c'était tuer un embryon de vie. Bon. Et d'autres ont considéré qu'au contraire, c'était la liberté des femmes et la liberté de leur corps que de décider de donner la vie ou pas. Bon. On se trouve dans une situation qui n'est pas tout à fait comparable, mais qui pose aussi la question de savoir si on peut revendiquer, et c'est ce dont parlait Jean-François Colosimo tout à l'heure, est-ce qu'il y a un droit à mettre fin à sa vie? En fait, c'est ça. Bon, des suicides hors champ
on
médical...
On ne dit pas, si la loi ne parle pas de droit à mourir.
Oui, je sais, justement. Ouais. Elle n'en parle pas. Mais combien avons-nous de suicides en France tous les ans? De gens qui ne demandent rien à personne et qui décident de mettre, malheureusement, il y en a beaucoup, énormément. Y compris chez les jeunes, d'ailleurs. Et c'est une vraie préoccupation.
Parce et chez parle, les soignants.
On parle beaucoup des... Et chez les agriculteurs. Enfin, on parle beaucoup des personnes âgées. Mais malheureusement, il y a aussi énormément de suicides chez les jeunes. Donc, en fait, ce dont on est en train de parler est un problème de fond de l'organisation de nos sociétés, de la manière dont nous voyons la vie et la mort, dont la manière dont nous concevons des priorités. Et sur les systèmes de soins et de santé, c'est tout à fait évident. Je suis désolée de dire que ce n'est pas une priorité budgétaire. Donc, oui, on est renvoyé à des questions fondamentales, métaphysiques, presque anthropologiques, sur c'est quoi l'humain, c'est quoi la vie, est-ce qu'on peut disposer de son corps, est-ce qu'on ne peut pas, tu ne tueras point, est-ce que ce ne tu ne tueras point s'applique effectivement à soi-même aussi, et dans quelle mesure?
Et est-ce que c'est à l'État et à la loi de répondre justement à ces considérations et à ces questions d'ordre métaphysique, Jean-François Colosimo?
Bon, elles sont, enfin, disons, d'ordre éthique, on va dire, parce que la métaphysique, certains diront que ça n'existe pas. Mais moi, je pense qu'on peut discuter des heures. Les chiffres espagnols, ils ont été très sujets à polémique, y compris par l'Association espagnole du droit à mourir, puisque l'État retenait les chiffres, enfin, etc. Mais de toute façon, c'est pas qu'une question de chiffres. Lorsque Sylvie Kaufmann dit, effectivement, le serment d'Hippocrate, il faudra peut-être penser à le changer, bon, il n'existe que depuis 2400 ans, après tout, n'est-ce pas? Donc, c'est peut-être bien sur une rupture que nous sommes, et je dis pas ça pour me moquer du tout. C'est peut-être bien sur une rupture que nous sommes, ça le signale quand même. Donc, est-ce que l'État a vocation à disposer la naissance, la vie et la mort des gens et de la réguler par des lois, lesquelles lois peuvent toujours être mal comprises, détournées, manipulées, etc. Ben, je vous dirais non, parce que moi, de ce point de vue-là, vous voyez, je suis pas dans la soumission à l'État, et en plus, je dirais pas que les gens qui font l'État m'inspirent toujours une confiance extraordinaire, surtout sur les questions éthiques ou métaphysiques. Donc, je crois qu'on en est là. La vérité, c'est que cette mort, qui est la seule chose que nous ne connaissons pas, sur laquelle nous ne savons à peu près rien, si ce n'est des relevés cliniques, cette mort qui conditionne toute notre existence, puisque selon la fameuse définition pour le coup philosophique, nous sommes le seul animal à savoir qu'il va mourir, et ça explique le musée du Louvre. N'est-ce pas? C'est comme ça un peu la différence. Bon, avec le règne animal. Donc, cette mort dont nous ne savons rien, nous disons que nous allons la remettre, finalement, à la subjectivité radicale. Voilà. Alors, les subjectivités vont mal, les subjectivités souffrent, les subjectivités, etc. Tout ça, je l'entends bien. Mais je dis, non, il y a quelque chose qui va pas. Je trouve que ce n'est pas aux députés de statuer de ce qu'est la mort. Déjà, ils voulaient statuer sur ce qu'est l'histoire, ça me plaisait guère. Et ils ont fait, de ce point de vue-là, des bourdes immenses. Non, élu de la nation, ça veut dire peut-être s'occuper des hôpitaux et du système de santé avant de vouloir à tout prix m'expliquer ce que sont la vie et la mort.
Anne-Lorraine Bujon-Trépigne, ce sera la conclusion.
Non, mais le droit accompagne les évolutions de la société. Il a pas vocation à être figé, mais je crois qu'il faut juste souligner qu'en la matière, tout ce qui relève de la bioéthique en France relève d'un traitement législatif très particulier et il faut s'en féliciter. Ce ne sont pas des lois qu'on peut prendre du jour au lendemain sur un coup de tête parce qu'il y a eu un changement de majorité politique. Il y a beaucoup de garde-fous. On a ce traitement particulier pour toutes les lois de bioéthique qui explique, je crois, que la plupart de nos lois de bioéthique soient très équilibrées.
Eh bien merci, ce sera donc la conclusion pour aujourd'hui. Merci à tous les quatre, Corinne Lepage, Sylvie Kaufmann, Anne-Lorraine Bujon et Jean-François Colosimo. Vous pouvez retrouver cette discussion sur notre site franceculture.fr. Merci à Anne-Claire Bazin qui a préparé l'émission, à Luc Jean Reynaud qui l'a réalisée. À la prise de son aujourd'hui, il y avait Dalia.
Culture. L'esprit d'ouverture.
Les promeneurs et sportifs qui profitent des charmes de la forêt de Fontainebleau ignorent souvent qu'ils doivent sa préservation à des artistes peintres mobilisés au 19e siècle et au soutien de la célèbre romancière George Sand.
Un arbre qui est très vieux dans l'imagination de l'époque, c'est un arbre qui a ou 500 ou 1000 ans. Et on doit le garder pour que ce témoin demeure.
Une histoire particulière. Fontainebleau, forêt en danger. Un documentaire de Pierre-Laure Imi, réalisé par François Test, ce week-end à 13h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Demain, dans les Midis de Culture,
Nicolas Herbeau.
Shakespeare et Racine, nous parlons théâtre dans notre débat critique.
Géraldine Mousnat-Savoie.
Elle est l'une des plus grandes écrivaines françaises. L'inceste qu'elle a subi à partir de ses 13 ans, elle le raconte dans plusieurs de ses livres, mais aujourd'hui, elle passe derrière la caméra pour en montrer les conséquences et l'impossible explication avec sa famille. Une famille, c'est le titre de son documentaire Rencontre avec Christine Angot.
Les Midis de Culture, du lundi au vendredi à 12h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Et sur France Culture, il est pile midi, l'heure de retrouver les bonnes choses de Caroline Brouet. Aujourd'hui, cuisiner en prison.
Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Et c'est à l'alimentation en prison que nous allons nous intéresser ce midi. Comment mangent les 75 677 personnes incarcérées dans nos prisons françaises? Dans quelles conditions se nourrissent-elles? Et, grande question, est-ce qu'on mange bien en prison? Deux invités sont avec nous. Pour commencer, elles seront rejointes par deux autres un peu plus tard dans l'émission. Pour commencer, Madeleine Kuhlmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiante en Master 2 à Sciences Po Lille. Dans le Master Bois.